Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes en français, qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute notre équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours très nombreux à nous écouter sur cette antenne ou encore en podcast, ou encore même avec votre téléphone. André Zidio de Mello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'ADRA France, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. André Zidio de Mello, vous venez nous parler aujourd'hui d'une situation en ce moment, il s'agit du Haut-Karabakh. Alors, il faut préciser peut-être qu'est-ce que c'est que le Haut-Karabakh.
Tout c'est, à fait.
C'est oui. Pas un pays, c'est une région qui est coincée entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est bien ça?
Exactement. Donc la région du Haut-Karabakh, voilà, c'est une région qui est une région montagneuse au sud du Caucase. C'est intéressant aussi d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Nagorno-Karabakh.
Donc, oui, parce que c'est Haut-Karabakh ou Nagorno-Karabakh.
Tout à fait. Exactement. Donc, Nagorno, ça veut dire exactement haut, donc ou aussi montagneux. Et Karabakh, ça veut dire jardin noir. Donc, dans ces noms-là, on pourrait donner une traduction comme jardin noir élevé ou montagneux. Et ça concerne une région, effectivement, qui est à l'intérieur de l'Azerbaïdjan, mais qui est peuplée quasiment par que des personnes d'origine arménienne. Malheureusement, nous avons un conflit. Cette région est toujours disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
André Zidio de Mello, il faut peut-être aussi revenir sur l'histoire, parce que ces deux pays ont une histoire commune. Il y a eu un problème qui s'est présenté lors de l'effondrement du bloc soviétique, justement.
Exactement. Avec la dissolution de l'Union soviétique, l'Arménie et l'Azerbaïdjan donc ont devenu des pays indépendants et ont commencé une guerre dévastatrice pour les contrôles de ces territoires. Donc cette guerre a mené à ce que des dizaines de milliers de personnes soient mortes, jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit obtenu en 1994.
Donc ce n'est pas un problème nouveau.
Non, en fait, même avant cette dissolution de l'Union soviétique, il y avait déjà des difficultés dans cette région-là.
Donc en fait, c'est important de connaître cette histoire pour bien comprendre les enjeux qui se jouent aujourd'hui.
Ce cessez-le-feu de 1994 a mené à ce que nous ayons une situation assez instable dans ces territoires. Ça veut dire, la région est formellement reconnue comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, même si ses habitants majoritairement d'origine arménienne exercent les contrôles de facto de la région. Ils ont même demandé à plusieurs reprises, et ont même autoproclamé une indépendance qui n'est pas reconnue par la plupart des États et les Nations Unies aussi.
Il faut préciser que la Russie, les États-Unis et la France jouent un rôle de médiateur depuis de nombreuses années, justement, pour ramener la paix dans cette région, mais que ça n'a pas fonctionné.
Exactement. Ils n'ont pas réussi à médier un accord de paix durable entre ces deux pays, ce qui a mené à la situation actuelle. Dès mi-septembre, nous avons des conflits assez intenses dans cette région. Il y a eu des conflits sporadiques au cours des années, mais aucun de ces conflits n'a été aussi intense que les combats actuels qui ont éclaté en septembre. Donc, la guerre aujourd'hui au Haut-Karabakh est la crise la plus sérieuse dans la région du Caucase Sud depuis 1994. La situation est grave. Il y a aussi des suspicions que des crimes de guerre sont en train de se faire pendant les combats. Par exemple, l'utilisation d'armes à sous-munitions.
Ce sont des bombes qui sont lâchées dans lesquelles il y a plein de mini-bombes qui se répartissent sur tout le territoire.
Une partie de ces mini-bombes peuvent ne pas exploser au moment du premier choc et même après exploser des années après, plus tard. Il y a eu plusieurs tentatives de conciliation notamment avec la participation de la Russie. On a déjà eu au moins 3 cessez-le-feu qui ont été établis entre Bakou, ça veut dire l'Azerbaïdjan, et Erevan, l'Arménie. Mais à chaque fois, les deux pays se sont accusés mutuellement de violer les accords conclus. Donc, les deux parties, en plus de ça, utilisent des armes lourdes qui causent beaucoup de destruction et des pertes parmi la population civile. Ce qui fait que nous ayons une situation humanitaire assez grave, avec probablement plus d'une centaine de civils déjà tués et des déplacements très nombreux des personnes qui ont besoin de fuir, laisser tout derrière pour chercher un lieu plus sûr.
Et alors comment l'organisation internationale se met en place, André ? L'organisation humanitaire.
Très bien. Donc, il y a plusieurs façons d'aider dans ces conflits, même si la situation n'est pas facile. La situation des sécurités ne favorise pas l'accès humanitaire, mais ce qui s'est fait beaucoup, ce sont des distributions d'aide avec des abris d'urgence.
Comment on fait quand on n'a pas accès au territoire et à la population? Comment est-ce qu'on fait pour distribuer de l'aide?
On fait ce qu'on peut déjà, et souvent on prend des risques parce qu'on estime que c'est tellement nécessaire de faire cette aide humanitaire qu'il faut accepter un niveau de risque. Et parfois, les humanitaires acceptent des risques assez importants.
Donc, c'est le cas dans cette situation-là actuelle?
Oui, je pense que pour plusieurs. Il y a des besoins multiples. La population qui est déplacée n'a pas forcément accès à des médicaments, à des produits essentiels comme des produits d'hygiène. Nous avons une situation qui est assez difficile avec l'approche de l'hiver. Les personnes étant dans des abris sans chauffage, ils ont aussi besoin des vêtements chauds. Ils ont bien sûr besoin d'une assistance psychosociale, et aussi les enfants qui sont déplacés, qui sont privés aussi d'éducation.
Donc les besoins sont grands, sont nombreux.
Les besoins sont multiples. Et voilà, comme on a dit, l'accès humanitaire n'est pas le plus facile avec tous les blocages qui peuvent avoir avec des groupes armés qui se déplacent d'un côté à de l'autre.
Et alors donc, quel est le rôle d'ADRA sur le terrain, là-bas, au Karabakh? Comment ça se passe?
Déjà, ADRA France, elle participe financièrement à cette urgence, en appui à la population touchée par les conflits en Arménie et aussi en Azerbaïdjan. Donc, nous avons un bureau dans chacun de ces pays qui organise une réponse. Les bureaux ADRA d'Arménie, elle était très rapide déjà suite au premier gros conflit et s'est rendue dans la zone des conflits très rapidement pour évaluer les besoins. Donc, ADRA, dès ses premiers moments, a déjà aidé 100 ménages et projette de continuer à aider d'autres ménages vulnérables, en particulier ceux qui ont perdu leur maison et se sont déplacés du Haut-Karabakh. Notamment, beaucoup des personnes qui viennent de la ville de Stepanakert, qui est la capitale, y a été très touchée par les feux de ces conflits. Donc, une grande partie de la population de Stepanakert est partie en Arménie et a besoin d'appui parce qu'ils sont déplacés. Et les bureaux en Azerbaïdjan aussi ont un projet pour aider la population touchée par les conflits qui vise la sécurité alimentaire. Donc, avec la priorité donnée à des familles qui ont perdu leur maison ou qui ont perdu leurs revenus parce qu'ils ont peut-être perdu les magasins qui étaient détruits ou l'usine où ils travaillaient. Aussi, des familles qui ont quelqu'un de la famille qui est décédé et qui, du coup, passe par une difficulté. Ou des personnes, à cause des blessures, ne peuvent plus travailler. Et des familles qui ont plusieurs enfants.
André Zilio de Mello, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous souhaitez lancer un appel au micro de Parole Solidaire aux auditeurs qui nous écoutent là en ce moment?
Si vous voulez participer à cette réponse d'urgence avec ADRA France, n'hésitez pas à entrer dans notre website adra.fr et de faire un don. Et vous pouvez aussi indiquer que ces dons, c'est pour l'appui à cette réponse d'urgence. Et nous serons ravis de pouvoir transmettre votre aide sur place.
Donc les auditeurs l'ont compris, eux aussi, là où ils se trouvent, ils peuvent soutenir l'action d'ADRA dans cette situation compliquée en Azerbaïdjan et en Arménie, et notamment dans cette région du Haut-Karabakh. Merci beaucoup André Isidio de Mello d'être venu à ce micro, c'était Parole Solidaire, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau thème. À bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani, comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire.
La vôtre.
J'ai souffert de toujours vouloir faire mieux, produire, être presque la meilleure, parce que si j'étais pas la meilleure dans quelque chose, eh ben, ça voulait dire que j'étais nulle. J'avais commencé de l'athlétisme, mais puisque j'étais pas la plus forte, j'ai juste laissé tomber. Et ça, c'est une mentalité qui m'a coupée de plein de choses, en fait. Tout simplement parce que je mettais ma valeur dans ce que je produisais, ce que je faisais.
Viser l'excellence, c'est bien, mais lorsque l'on en devient esclave, ça devient compliqué. Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire. Notre invitée du jour, Laetitia Guern, raconte ce qui l'a libérée du poids de la performance à tout prix. Après ses études de lettres à l'université de Lausanne, la jeune Suissesse a donné libre cours à sa passion pour l'écriture en créant avec deux copines le site internet letsdoit.ch. Elles offrent ainsi plein de conseils à des jeunes filles de 12 à 18 ans et les encouragent à lire la Bible, et oui, car c'est dans ce livre que Laetitia Guern va puiser ses idées et son inspiration. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Laetitia Guern aime tout ce qui touche à la communication. Écrire, parler, échanger, transmettre. Une passion qu'elle raconte au micro de Christine Raymond.
Je pense que j'ai beaucoup aimé les langues. J'aime toujours les langues. J'ai eu l'occasion de faire un court séjour avec Wycliffe pendant quelques mois en Angleterre. Wycliffe, c'est la traduction de la Bible dans toutes les langues, en fait. Et puis j'ai rencontré là-bas des personnes qui avaient vraiment donné leur vie pour étudier des langues et aller après traduire la Bible, transformer en fait une langue orale en langue écrite pour aider les gens aussi avec l'alphabétisation. Et ça m'a sensibilisée sensibilisée en fait à la question de la communication, de la linguistique. Et à l'université, quand j'ai dû faire un choix entre différentes branches, j'avais ça en tête. Et puis même si c'est pas forcément quelque chose aujourd'hui que j'aimerais faire, mais la communication, c'est quand même resté vraiment quelque chose de fort. Et je pense que le fil rouge, ce serait de dire j'aimerais parler au nom de ceux qui n'ont peut-être pas de voix, en fait. Parler pour ceux qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas entendus, en fait. Et puis aider aussi des personnes qui le font, même si ce n'est pas forcément toujours moi qui le fais, mais aider des personnes à mieux communiquer, parce que des fois, on est un petit peu maladroit dans notre manière de communiquer et on a besoin d'aide, de clés, juste de comment est-ce qu'on pourrait être à la fois original, mais en laissant vraiment un message très clair.
Alors, tu as créé un blog qui s'appelle Let's Do It pour encourager les filles à être bien dans leur peau, bien dans leur tête et bien dans leur foi en Dieu. Est-ce que c'est parti d'une expérience perso, ça, parce que tu étais quelqu'un qui était bien dans sa peau, bien dans sa tête et bien dans sa foi?
Non. Je pense que j'ai passé par une période assez égoïste dans le sens, tout était centré sur mon confort, mes études, mon bonheur, moi. Et en fait, j'ai réalisé que c'était pas ça la clé et que plus j'étais dans cette mentalité de qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter, qui suis-je, et comme ça, c'était difficile au quotidien. Et j'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué, qui disait la question c'est pas qui tu es, c'est à qui appartiens-tu et qui est plus grand que toi et à qui regardes-tu? Et là, j'ai réalisé que la question qui suis-je, elle découle de qui est plus grand que moi et à qui est-ce que j'appartiens? Et moi, j'ai envie de dire que j'appartiens à Dieu. J'ai vraiment le privilège de naître dans une famille chrétienne où j'ai reçu des valeurs qui m'ont vraiment portée aussi dans mon adolescence. Après, je dirais entre 12 et 18 ans, j'étais très dans la performance et puis pour moi les notes à l'école c'était tellement important, j'avais l'étiquette de l'intellote enfin voilà. Et puis tout simplement parce que j'aimais bien étudier et puis que c'était peut-être mal vu à cette époque-là. Pour moi en fait, j'ai souffert je pense de toujours vouloir faire mieux, produire, être presque la meilleure, parce que si j'étais pas la meilleure dans quelque chose, ça voulait dire que j'étais nulle. Enfin dans ma conception des choses, c'est pour ça que j'ai arrêté le piano, c'est pour ça que je faisais un temps j'avais commencé de l'athlétisme dans le cadre de cours à l'école, mais puisque j'étais pas la plus forte, j'ai juste laissé tomber. Et ça, c'est une mentalité qui m'a coupée de plein de choses, en fait. Et tout simplement parce que je mettais ma valeur, en fait, dans ce que je produisais, ce que je faisais. C'était entre 18 et 22 ans, peut-être. Et puis, c'est là que, petit à petit, en découvrant cet amour de Dieu, il est un père, et je le crois, ça. Un père, il va pas... un père parfait, peut-être on a des fois des mauvaises conceptions des pères autour de nous, mais un père parfait, il va pas nous attendre au contour pour nous dire « Ah, mais tu vois, t'as pas assez produit, etc. » Il nous aime inconditionnellement. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai été amenée à découvrir, que peu importe les notes que je faisais, peu importe mes résultats sportifs, peu importe si je jouais bien du piano ou pas, j'étais toujours la bienvenue vers Dieu, et je pouvais à chaque instant l'appeler, lui parler, et puis à chaque instant en fait, son amour changeait pas en fait. Il pouvait pas m'aimer plus ou moins parce que son amour il était parfait, et il est parfait.
Avec lui a évolué au fil de ces années.
C'est comme un ami en fait. Plus on connaît des différentes facettes de cet ami, plus la relation va être profonde. Et puis c'est clair qu'il y a des hauts et des bas. Et puis il y a des moments où on a l'impression que c'est peut-être plus sec, peut-être qu'on passe par des temps un peu de désert où c'est plus difficile, où tout à coup on a peut-être des doutes qui viennent. Mais moi j'aime me dire que j'ai les pieds comme ancré dans la parole de Dieu, et il y a des choses qui sont vraies, même si je le vois pas maintenant avec mes yeux, et puis même si toutes les circonstances autour de moi me crient le contraire, c'est là que la foi intervient, de dire moi je veux croire ce que la Bible dit. Et puis les circonstances vont s'aligner peu à peu à ça. Et puis ça peut être par exemple pour peut-être quelqu'un qui souffre d'une maladie ou on voit le diagnostic et puis après, ben, il y a des promesses de vie et d'espoir de la part de Dieu dans la Bible. Et puis, ben, on comprend pas tout, mais en même temps, eh ben, on peut, enfin, c'est une question de regard, de se dire, mais moi, je veux croire ce que dit Dieu, je veux croire qu'il a des plans de bonheur pour moi. Et puis, même si aujourd'hui, eh ben, peut-être je suis au chômage, peut-être que je viens de passer par un divorce ou peu importe la complexité de la difficulté, eh ben, je veux croire qu'il y a de l'espoir pour moi et je veux croire que Dieu a la clé de la suite, en fait. Pour moi, il y a eu une personne qui m'a vraiment marquée. J'ai fait un voyage en Inde il y a quelques années et puis c'est une femme qui s'appelle Anju. C'est une femme d'un pasteur là-bas et ils ont tout, mais absolument tout donné pour Dieu. C'est-à-dire que elle rayonnait tellement, elle avait vraiment trouvé un sens à sa vie. Peut-être qu'on se dit, mais ils partagent une chambre, toute la famille, ils ont presque rien à manger, ils ont, s'ils ont chacun une couverture, c'est déjà un trésor. Mais en même temps, juste de la voir et puis de voir ce qui brillait dans ses yeux, j'ai réalisé que en fait, elle avait tout ce qui était essentiel à la vie. Et puis, en fait, je me rappelle d'une scène où il y avait des enfants qui mendiaient dans la rue. Et puis, souvent, en fait, ils étaient venus vers nous. Ils voyaient qu'on était dans un petit hôtel. Alors, c'était vraiment un hôtel. On n'avait même pas de fenêtre dans la chambre. Donc, c'était vraiment pas le grand hôtel. Mais ils venaient parce qu'ils voyaient qu'on était des touristes. Et puis, ils avaient mendié pendant plusieurs jours dans la semaine. Puis, le dernier jour, quand on devait partir, on était autour du bus. Et cette femme, Anju, je la vois tout à coup qui parle avec ses deux enfants mendiants. Et puis, là, en fait, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Et je me suis dit, mais j'aimerais trop savoir ce qu'elle leur a dit, en fait. Et puis, je lui ai demandé. Elle m'a dit, ah, mais je leur ai tout simplement proposé de venir habiter chez moi. Et pour moi, ça a été un tel exemple d'une foi qui est mise en action. C'est pas juste des jolies paroles, c'est pas juste de la théorie, c'est être les mains et les pieds de Jésus sur cette terre. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'elle a même pas eu besoin de demander l'avis de son mari, d'organiser les choses. C'était un oui prédécidé, en fait. Elle accueillait les personnes que Dieu mettait sur sa route, en fait. Et alors ses enfants, ils ont pas accepté pour une raison que je connais pas. Mais en fait, c'est d'être prêt à mettre sa vie, à donner sa vie, en fait, pour notre prochain. Et c'est ça la clé de l'évangile, c'est que on perd notre vie, mais en fait, on gagne tout, parce que en perdant notre vie, entre guillemets, ben voilà, c'était peut-être partager le peu d'espace qu'elle avait, mais en même temps, cette femme, j'oublierai jamais la lumière qu'il y avait dans ses yeux et puis l'amour qu'elle avait pour Dieu, en fait. Cette femme, Anju, eh ben, elle m'a clairement montré qu'il y a besoin de personnes qui sont radicales et qui vont jusqu'au bout de leurs convictions. Et puis qui suivent ben l'exemple tout simplement de Jésus. Et quand Jésus vit avec nous, en nous, et ben ça se voit automatiquement sur la manière dont on vit et ça nous transforme, en fait.
Donc Jésus serait un modèle par excellence.
Exactement. En fait on peut pas trouver de meilleur modèle que Jésus. Parce que tout simplement, les personnes qui ont été des modèles dans ma vie, qui sont des modèles, on pense à Mère Teresa, on pense à des personnes qui ont impacté le monde, ben toutes ces personnes vont nous dire que en fait elles étaient portées par quelqu'un de plus grand, portées par des convictions que Dieu avait mis dans leur cœur. Et puis ça va au-delà juste de l'aspect social et puis de prendre soin des gens, c'est aussi la dimension de la foi. Et que par exemple si je pense à des personnes clés dans ma vie, si elles ont joué ce rôle, c'est aussi parce qu'elles ont été elles se sont laissées transformer par cette amitié avec Dieu qui les a complètement changer. Et du coup, en fait, elles ont eu quelque chose à me donner et à donner aux personnes autour d'elles.
Laetitia Guerne était notre invitée du jour. Et pour découvrir ces textes d'encouragement, rendez-vous sur le site internet letsdoit.ch. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage. C'est vous l'histoire, c'est signé par l'équipe de Radio Réveil qui vous dit bye bye.
Vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien il vous suffit de composer le 1 712 432 9978. Veuillez également noter que vous pouvez nous écouter à 4h30 sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres. Bien sûr, tout cela en temps universel. Et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la Voix de l'Espérance. IEBC, boîte postale 100-77-193, Damary-Lélis, Cedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme. Au revoir.